pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct du Salon des maires et des collectivités locales sur le stand, le studio devrais-je dire, même si il ressemble à un jardin. Grâce à l'interprofession Valor, avec ses producteurs, ses paysagistes concepteurs, ses entrepreneurs, ses fleuristes, ses jardineries et j'en passe. Aujourd'hui, nous allons aborder sur les antennes de Radio Immo, Radio Territoria et Radio Carbone Zéro, la dernière née, le thème suivant, qui peut vous paraître un peu incongru, nouvelle mobilité et nature en ville, un avenir fertile, point d'interrogation. Alors pour en parler, je suis très heureux de recevoir trois invités. Sabrina De Canton, vous êtes première adjointe au maire de Saint-Ouen, déléguée à la transition écologique, aux mobilités et à la nature en ville, ainsi que des relations avec la métropole. À ma gauche, Rami Fischler, vous êtes designer et vous avez créé le studio RF Studio. Et enfin, Jean-Marc Bouillon, j'ai bien dit Jean-Marc, dirigeant de Taquet et Conseil, administrateur de Valor. Et à ce titre, vous avez créé, il y a maintenant 2 ans bientôt, le fonds de dotation Intelligence Nature. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte. Pourquoi associer nature en ville et mobilité? Eh bien, je me suis dit qu'il y avait peut-être 3 points essentiels que nous devions considérer. Et vous allez me dire les uns les autres si ça résonne avec vos réflexions. La première chose, c'est ce fameux rapport du GIEC. Cette petite musique qu'on a tendance à oublier, qui date du mois d'août et qui confirme et qui atteste formellement d'un certain nombre de choses que nous savions déjà, mais qui n'est pas que, comme dirait notre amie Greta Thunberg, bla bla bla. En l'occurrence, les choses sont extrêmement claires. Nous allons vivre des épisodes climatiques d'une intensité record et qui sont amenés à se multiplier dans leur fréquence et dans leur durée. En particulier, des pluies extrêmement fortes sur des durées très contraintes. Et d'autre part, des canicules plus fortes et plus longues chacune. Donc il y a un premier sujet climatique qui voudrait que probablement, et c'est un euphémisme, on adapte les villes au changement climatique plutôt que de travailler sur des stratégies d'atténuation. Et il me semble qu'à la fameuse COP26, nonobstant l'échec qu'elle représente, eh bien, il a été évoqué d'adapter les villes au changement climatique et on ne parle plus d'atténuation. Ça, c'est le premier point, ce côté adaptation au changement climatique. Ensuite, nous avons vécu durant le premier confinement, et nous ne sommes pas là pour avoir la critique facile, le début d'une pandémie est quelque chose d'assez inédit, mais nous avons vécu ce paradoxe d'avoir des espaces ouverts, publics comme privés, dont nous étions privés, qui étaient fermés. Des espaces ouverts, fermés, et on le voit dans un certain nombre de villes où on prône, elle est nécessaire pour limiter l'étalement urbain, très probablement, la densité, lorsque cette densité la dispute à la promiscuité, les espaces communs, lorsqu'ils nous sont fermés, eh bien, ça a des conséquences sur notre santé individuelle, physique et mentale, mais aussi sur notre lien collectif, qui sont assez dramatiques. En témoigne l'envie de rejoindre ces espaces, la pression très très forte que les citoyens ont exprimée à l'époque. Et puis enfin, troisième point, un élément qu'on ne peut éluder, c'est la transformation de la voirie urbaine avec, d'une part, les nouvelles mobilités. On a eu l'épisode des vélos, ensuite les trottinettes, ensuite des voies qui sont amenées à se libérer. On voit le développement de vélos cargo pour décongestionner le trafic urbain et décarboner aussi quelque peu cela. Il y a, et vous pourrez peut-être nous en parler, Madame la Première Adjointe, un référendum, une consultation qui est lancée, orchestrée par la région Île-de-France pour libérer une troisième voie, non pas politique, mais une voie pour les véhicules à déplacement doux sur le périphérique, le fameux périphérique parisien. Et puis, il y a eu aussi, de manière, certains diront erratique, mais en tous les cas réelle, une appropriation d'un certain nombre de places de parking. Alors, je rappelle que Parking Day a été créé aux États-Unis, a très peu pris en France il y a une vingtaine d'années. Eh bien, Parking Day, c'était tous les jours depuis la crise de Covid, notamment avec les restaurateurs. Et Rami, vous menez un travail pour le compte du GNI, le Groupement National des Indépendants, restaurateurs et hôteliers. Et vous aurez probablement quelque chose à nous dire à ce sujet. Donc on s'est réapproprié, ou on s'est approprié tout simplement, il n'y a pas de re à, forcément à mettre, des espaces qui étaient jusqu'alors dédiés 100% à la voiture. Alors voilà le magma avec lequel on va travailler. Et je m'adresse tout d'abord à vous, Madame De Canton. d'abord avec un élément extrêmement facilitateur pour le titre de cette émission, et nous avons conçu le titre avant d'avoir la joie de vous recevoir, c'est que votre délégation traite à la fois de la programmation urbaine, de la transition écologique et de la nature en ville, et des mobilités. Est-ce que c'est simplement parce que vous avez, comme tel Shiva, la capacité de mener plusieurs sujets de front, ou est-ce que c'est aussi une cohérence, et puis au-delà de cette boutade, est-ce que les éléments, et en quoi est-ce que les éléments que je vous ai cités résonnent dans votre fonction d'élu ?
Alors tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau à débattre de ces sujets qui sont absolument passionnants. Alors je ne sais pas si j'ai la capacité de Shiva d'avoir plusieurs bras pour pouvoir faire plein de choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le rôle d'élu nécessite d'avoir plusieurs casquettes et donc de travailler également en transversalité avec les différentes problématiques que l'on rencontre dans nos villes. Peut-être pour commencer, quelques mots sur Saint-Ouen, parce que je pense que c'est important de bien territorialiser finalement le sujet qui est le nôtre, puisque toutes les problématiques sont différentes en fonction des villes dont on a délégation. Et donc Saint-Ouen, pour ceux qui ne sont jamais venus, c'est une ville extrêmement dynamique, de 50 000 habitants environ. On est sur un trend d'environ 10 000 habitants de plus en 10 ans, donc on va aller vers 60, 65 000 d'ici 10 ans. Donc une ville qui vit une très forte densification, une très forte attractivité liée à sa proximité avec Paris. On est la ville de la métropole du Grand Paris qui bénéficie du plus grand nombre de portes avec Paris, 5 portes au total. Donc une très forte attractivité, une très forte densité urbaine également en cours. Et c'est important pour bien comprendre les enjeux qui sont les nôtres. Je pense que pour répondre plus précisément à votre question, pourquoi est-ce que dans ma délégation, donc j'ai à la fois les mobilités, mais également la végétalisation et la nature en ville, c'est tout simplement parce que aujourd'hui on ne peut plus penser la ville comme on l'a fait pendant des années, c'est-à-dire autour de la voiture, des villes minérales où on pensait plus en termes de fonctionnalité qu'en termes de bien vivre. Et aujourd'hui, ce qu'on veut vraiment porter à Saint-Ouen, c'est de se sentir bien tout simplement en ville. Et je pense que le confinement que l'on a vécu, cette crise sanitaire, nous a fait prendre encore plus conscience de la nécessité de retrouver des espaces publics où on a envie d'être ensemble, de se sociabiliser, et qu'ils soient beaux, qu'ils soient verts, et qu'ils nous apportent la respiration dont on a tant besoin dans cette métropole, en pleine densification justement.
Alors vous parlez de densification, il y a évidemment un projet qui fait beaucoup parler, puisque la date devient imminente, ce sont les Jeux Olympiques de Paris.
Oui.
Et vous accueillez une bonne partie du village.
Absolument.
Qu'est-ce que vous pouvez nous citer à la fois comme projet de densification et puis aussi des projets que vous avez, puisque votre mandat démarre depuis quelques mois, ça va faire un peu plus d'un an maintenant, mais c'est encore récent et il vous reste encore près de 5 ans pour accomplir un certain nombre de choses en matière de nature en ville. Voilà, c'est deux opposés que vous conciliez pour un mieux vivre.
Absolument, comment on articule les choses. Alors, vous faites bien de faire cette transition justement, donc c'est tout l'enjeu qu'on a. Donc effectivement, je suis élue depuis, ça fait à peu près un an et demi aujourd'hui, et c'était tout l'enjeu qu'on avait avec nos collègues, c'est comment est-ce qu'on retrouve de l'espace dans cet espace qui est déjà tant investi par promoteurs immobiliers qui construisent sur Saint-Ouen. Si vous venez dans notre ville, vous allez voir un paysage de grues. Voilà, donc c'est une ville qui est en pleine construction à certains quartiers, vraiment qui émerge de terre. Donc effectivement, ce qui était très difficile pour nous, c'est de se dire, très bien, on va essayer de végétaliser au maximum. On va essayer de créer des endroits où les gens vont pouvoir se retrouver. Mais malheureusement, il nous reste très peu d'espace.
Absolument.
Donc qu'est-ce qu'on a fait ? La première chose, c'est qu'on a fait un audit pour voir quels étaient encore les espaces fonciers qui étaient disponibles pour pouvoir les rendre aux habitants. Les espaces qu'on pouvait investir, soit, alors on a investi plusieurs options, avoir des zones de biodiversité, avoir des jardins partagés. Donc c'était les différentes options qu'on voulait examiner. Donc premièrement, répertorier encore l'espace qui était disponible. Et puis ensuite, influencer les projets qui étaient déjà en cours, sur lesquels on a malheureusement très peu la main, souvent, pour pouvoir végétaliser au maximum, soit aux abords, soit sur les toitures. Vous avez parlé du village olympique, mm-hmm. mais on a également un projet qui est vraiment phare pour notre mandature.
Mal.
Vous savez que Saint-Ouen, c'est aussi la ville du Red Star.
Ah,
et,
oui.
Et donc, on a le stade qui est en cours de rénovation avec des Bower Box également, qu'on a demandé aux promoteurs de végétaliser au maximum avec des toitures qui soient également accessibles pour retrouver peut-être plutôt en toiture des espaces.
Mmh.
Donc, première chose, tout ce qui est disponible en foncier, on essaye au maximum de le préserver pour le donner aux habitants. Et puis ensuite, on va aller forcément conquérir les toitures, mais également un projet très important, c'est de redonner accès aux berges. Parce que Saint-Ouen sur Seine, c'est un fleuve qu'il traverse. Et donc, pour nous, ce qui va être extrêmement important, c'est d'ici les prochaines années, pouvoir permettre aux habitants d'avoir accès à leurs berges pour pouvoir avoir des lieux de convivialité, de loisirs et également ressourçants, parce qu'il n'y a rien de plus ressourçant que l'eau, la présence de l'eau.
Absolument, et je vous invite vraiment, chères auditrices et chers auditeurs, à aller à Saint-Ouen. J'habite juste à côté. Et lorsque vous avez vous êtes tous invités, parce que vous avez la joie de vous balader entre Saint-Ouen et l'île Saint-Denis, il y a des lieux absolument magiques qu'il va falloir révéler, et ça c'est absolument formidable. Et puis vous poussez même le bouchon un peu plus loin, je ne vous appellerai pas par le prénom de la publicité, mais vous avez aussi la végétalisation de la Grande Halle, qui est un ersatz un peu dérivé, mais on voit que vous cherchez aussi à infiltrer des formes de vivant, y compris dans des lieux qui sont a priori très minéralisés. Alors justement, on voit que cet espace public, mais aussi avec cette incitation pour le privé, se transforme. Je fais appel à la mémoire et au podcast pour vous inviter à télécharger, à écouter sur votre route, par exemple en vélo, le podcast d'hier où Catherine Muller, présidente de Valor, a dialogué avec deux élus d'une petite ville de demain et d'une grande agglomération, en l'occurrence le maire de Montrouge, avec Sabine Desnaux, qui est la patronne de la RSE de Gecina et qui a lancé hier BIG, l'engagement de 16 acteurs de l'immobilier à transformer leurs pratiques pour plus de biodiversité et de paysage. Voilà, Biodiversity Impulsion Group. Donc, madame la première adjointe, l'information vous est partagée en live et vous saurez rappeler à qui de droit les engagements qui ont été pris par ces acteurs hier. Alors, on le voit, tout change. J'ai envie de m'adresser à Rami. Rami, vous avez plusieurs vies dans une carrière qui est relativement courte, puisque vous êtes très jeune. Vous avez à la fois votre cabinet d'agence de design, RF Studio. Vous avez aussi, jusqu'à un temps récent, été à la direction artistique de Chanel. Vous avez aussi une démarche artistique, si je puis dire, puisque vous étiez exposé à Lille et vous êtes actuellement exposé au lieu unique. On s'est connu par ce biais-là. Vous avez un rapport particulier au vivant, peut-être que vous avez enrichi avec les rencontres que vous avez faites dans la maison Chanel, avec les parfums et donc avec la ressource végétale. Et puis là, enfin, vous vous intéressez beaucoup à l'espace public, notamment pour ce projet des terrasses. Comment est-ce que ça résonne pour vous? Alors, première chose, qu'est-ce que ça représente, cet élément de nature dans ces franges urbaines, premier point. Et puis le deuxième, c'est dans votre travail pour le GNI, peut-être nous expliquer la démarche de design, parce que j'imagine qu'on va tout de suite se projeter en disant il va nous dessiner un joli mobilier, ça va changer des palettes que l'on a vues se multiplier devant les restaurateurs. Il faudrait mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et je crois que c'est un petit peu plus profond et ça va nous permettre d'aller plus loin. Voilà, bon courage, oui, Rami, parce
beaucoup.
Que la question était mal amenée, hein, je suis désolé.
Comment m'en sortir? Non, déjà, le design, c'est un métier en fait peu connu et difficile à expliquer, parce qu'en réalité, on peut être, comme vous l'avez dit, dans beaucoup de domaines différents. Ce qui réunit tous ces domaines, c'est qu'on reste, en tout cas pour ma part, toujours à l'échelle humaine. Et on est dans une époque, en tout cas, où l'échelle humaine redevient centrale. Et ça, je pense que c'est la raison pour laquelle aussi notre métier commence à devenir aussi plus visible dans des domaines dans lesquels jusqu'à présent, on était peut-être plus considéré sur la dimension décorative, voire même parfois anecdotique. Or, en réalité, le design, avant tout, c'est de résoudre, je dirais pas des problèmes, mais des problématiques en tout cas. Et en ce moment, il y en a quand même pas mal. Et là où dans l'espace public, peut-être que pendant un certain temps, le design pouvait peut-être s'incarner que dans le mobilier urbain et donc peut-être parfois dans la forme ou dans des usages assez limités. Aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de repenser complètement la ville. Et là où il y a peut-être encore un demi-siècle, l'imaginaire collectif de la ville, c'était la plus grande possible, avec des monuments les plus importants possibles, avec qui aurait la plus grande tour. Je ne veux pas caricaturer, mais c'est quand même des imaginaires qui ont été extrêmement, je dirais, soutenus et promus par le cinéma, par les grands récits, qu'ils soient politiques ou artistiques. On voit que petit à petit, le nouveau récit, c'est celui justement quasiment opposé de qu'est-ce qu'on va faire pour rendre la vie plus agréable dans les villes, pour peut-être limiter leur taille, pour les laisser finalement à une taille finalement plus humaine, pour créer, je dirais, des relations de quartier plus agréables et évidemment des mobilités douces, etc., etc. Et donc du coup, une déportation finalement un peu des enjeux vers des choses qui paraissent peut-être plus anecdotiques mais qui deviennent cruciales et sur lesquelles le design peut intervenir. Et notamment, comme vous le disiez, les terrasses, parce que les terrasses, c'est un mobilier urbain, il est dans l'espace public, et c'est tout à fait légitime, du coup, que les riverains se demandent à qui il appartient, puisque, en fait, il appartient à la fois aux restaurateurs qui en font commerce, mais il est aussi dans un espace qui, comme vous l'aviez dit, était destiné aux voitures. Les voitures non plus n'ont pas forcément plus de raisons que les commerces d'avoir pignon sur rue. Et les riverains, eux, ont envie de dormir tranquillement dans les étages. Donc ça crée, par la densité aussi de la ville, des problématiques qui sont typiquement aujourd'hui à résoudre, d'où la demande du génie que je trouve extrêmement intéressante à un moment où la ville, évidemment, toutes les villes, pas que la ville de Paris, doivent se positionner sur l'avenir de la voirie, vous l'avez dit, avec la débitumisation et la volonté de végétaliser, mais en pleine terre, parce que c'est ça qui résoudra demain les enjeux aussi de chaleur urbaine, mais aussi, évidemment, les conflits entre riverains, les enjeux économiques, louer, pas louer, la place de la voiture, etc. Et moi, je suis finalement du côté du génie, c'est-à-dire que c'est eux qui me commandent une mission. Ce qui prouve que les opérateurs ne sont plus que dans un conflit ou dans une bataille, je dirais, ou politique ou commerciale, mais prouve qu'à un moment, ce sont aussi les acteurs de la ville qui doivent chercher des idées désirables, pas uniquement rester dans les questions de normes, de contraintes, mais sortir un petit peu de ces discussions qui sont parfois stériles ou en tout cas qui n'amènent aucune réponse pour quiconque et dire, voilà, on peut rêver. On peut rêver d'une ville de demain et on peut aussi contribuer à trouver des réponses. Et le design, je dirais, c'est cette idée de pouvoir associer les contraintes et les transformer en réponses désirables pour demain.
Et alors, dans ce désir de ville, comment est-ce que vous appliquez aux terrasses et pas seulement, comment est-ce que votre rapport à la nature, que vous avez cultivé, si je puis dire, de diverses manières, comment est-ce qu'il vous inspire et quelle place vous présagez qu'elle va prendre dans ces travaux, puisque il faut le rappeler, hein, la mission pour le GNI ne fait que débuter. Vous êtes à la recherche de partenaires pour l'amplifier et la mener à bien avec toute cette démarche de design depuis les usages jusqu'à des objets, on va dire, des formes urbaines.
Il y a un paradoxe. Le premier, c'est évidemment le financement. Je vous disais que évidemment la concentration ou en tout cas l'attention se déporte sur la question des usages et de l'échelle humaine, mais les financements ne se déportent pas encore. Il y a beaucoup plus de financements pour construire des immeubles et je dirais agrandir les villes ou les peupler en horizontalité et en verticalité que de financer malheureusement des démarches comme celle-là qui sont un peu nouvelles mais qui nécessitent du coup aussi des nouveaux types de financements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui le GNI cherche à trouver ses financements à travers évidemment ses adhérents mais au-delà de ça.
Eh bien l'appel est lancé.
Et ensuite il y a en effet comme vous le disiez la dimension végétale, elle est très pragmatique. C'est de dire, à un moment, je pense que d'autres le diront autour de cette table, on prend la place des véhicules à moteur, et bien c'est le moment de figer une nouvelle façon de penser la voirie. Et le mieux, c'est que pour que ce soit pas temporaire, on finisse par faire quelque chose qui ancre le territoire dans tous les sens du terme, au fond sur le fond comme sur la forme, et donc du coup qu'on revégétalise et que les terrasses ne soient pas que vues comme un outil commercial pour déporter le restaurant vers l'extérieur, comme ça a été le cas, mais heureusement durant la pandémie, ce qui a permis quand même à tout le monde de
pouvoir se retrouver et de profiter
exactement,
des restaurants.
Mais que ce soit aussi le moment de repenser la rue collectivement et d'associer différents nouveaux usages qui sont évidemment de se restaurer dehors, mais en même temps de recréer des nouvelles places pour la mobilité douce. Où est-ce que je range mon vélo quand je me restaure? Où est-ce que je laisse les enfants jouer à côté de la rue en sécurité? Comment je mutualise la terrasse avec d'autres enjeux économiques de la rue pour des commerces qui n'en ont jamais eu et qui veulent eux aussi profiter, je dirais, de ces nouveaux espaces. Et c'est d'additionner finalement tout cela qui fera que demain on puisse dire que la terrasse n'est pas qu'un enjeu esthétique ou décoratif, mais un vrai enjeu, de la ville de demain. Et je finirai par dire que c'est aussi un enjeu économique, pas que pour les restaurateurs évidemment, mais pour toutes les industries, les start-up, les entrepreneurs qui aujourd'hui développent des nouveaux matériaux, des nouvelles façons de planter en pleine terre, nouveaux usages, que ce soit des usages digitaux ou physiques, qui cherchent aussi des nouveaux marchés et qui n'ont rarement accès finalement à des appels d'offres qui sont souvent monopolisés par des très gros acteurs aujourd'hui dans l'espace public. Donc pour moi, en tant que designer qui a un accès aussi au monde industriel et au monde des entrepreneurs, c'est l'idée de justement dire aux villes que les terrasses peuvent être un nouveau moteur aussi économique qui agrège des nouveaux acteurs industriels ou des nouveaux entrepreneurs sur des appels d'offres à réinventer pour demain.
Eh bien, vous parliez, Rami, du sol. Ça fait la transition. Vous avez tendu la perche à notre ami paysagiste concepteur. Et j'insiste, le paysagiste concepteur, c'est d'ailleurs à vous, Jean-Marc, entre autres, que nous devons ce titre. Le concepteur du paysage doit avoir une vision, un peu comme le designer, holistique. Mais ce qui le différencie peut-être et le relie aux autres métiers, c'est cette connaissance du vivant. Et ce vivant, en l'occurrence, son représentant le plus connu et le plus visible, c'est le végétal qui est ancré dans le sol. Jean-Marc, vous dites souvent que, en écho à ce que j'expliquais de manière très abrupte sur les conclusions du GIEC sur les épisodes climatiques, la ville déborde, la ville surchauffe et les infrastructures grises sont obsolètes. Et vous prônez le développement d'infrastructures vertes. Alors, première question, qu'est-ce que c'est? Et puis la deuxième, qui va s'adresser à la fois, va permettre au designer de progresser, même s'il est très avisé, et à l'élu aussi, c'est que de votre discipline initiale, qui est déjà très large, vous vous êtes entiché d'hydrologue, de cartographe, et aujourd'hui, vous développez des outils pour aider à la décision et concilier des dimensions parfois contradictoires entre le volet social, le volet biodiversité au sens trame verte et bleue écologique, et puis le volet serviciel pour adapter la ville au changement climatique. Donc, qu'est-ce qu'une infrastructure verte? Et pourquoi est-ce que les grises seraient-elles obsolètes? Et puis, quels sont les outils que vous développez?
Oui, alors merci. L'infrastructure verte des villes. Moi, je reprendrai le petit mot de début que vous avez prononcé en parlant de ville nature. Une ville nature, ce n'est pas qu'une ville verte. Une ville nature, c'est une ville qui est capable de renouer avec un fonctionnement naturel. Et qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnement naturel qui est à la base de tous les écosystèmes propices à l'installation humaine? C'est l'eau et le végétal. Donc est-ce qu'on est capable d'arrêter de considérer en ville l'eau comme un déchet dont il faut se départir au plus vite par un système complexe d'infrastructures grises, de tuyaux, de bouches à valoir, etc., etc., qui aujourd'hui sont tous en saturation? Saturation qui va, comme vous le rappelez, être de plus en plus patente, de plus en plus perturbant, et même qui va être à l'origine de catastrophes importantes, parce que les épisodes pluvieux vont augmenter. Donc nos petits tuyaux de ce système statique, souterrain, profondément enterré, qui doit répondre à des conditions vivantes, on sent bien que statique, vivant, ça va marcher. Donc il y a l'eau qui est une question, et donc au lieu de la considérer comme un déchet, faisons-la ruisseler gentiment en surface, conduisons-la vers des espaces verts qu'on met en creux, et ces espaces verts seront de nouveau arrosés automatiquement à chaque pluie consisteront en les territoires propices à l'installation pérenne d'une végétation en ville. Et ainsi, eau plus végétal durablement installé. Je rappelle juste un chiffre, en 96 à Lyon, ville comment dire, exemplaires pour la politique de l'arbre. Ils avaient observé que 50% des arbres remplacés annuellement dans le Grand Lyon avaient moins de 30 ans. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on les mettait en situation d'échec, nos arbres. Et seuls 8% plus de 100 ans. Et en 96, il faisait moins chaud, on a le droit d'arroser. Aujourd'hui, il va faire beaucoup plus chaud, il y en aura des interdictions d'arroser. Donc qu'est-ce que vont devenir les stratégies de végétalisation massive de la ville? Que va devenir cette infrastructure verte de la ville si on n'a pas d'abord géré la question de l'eau? Donc voilà, l'infrastructure nature, c'est quelque chose qui, au-delà d'être vert, et c'est bien que ce soit vert, eh ben, va contribuer à un nouveau fonctionnement urbain de la ville, beaucoup plus naturel, beaucoup plus résilient. Voilà.
Vous dites même un métabolisme pour s'inspirer
voilà. Du coup, nous, l'innovation qu'on développe, on lui a donné un petit nom, on l'a appelé INE. C'est au rapport avec le système immunitaire que nous avons INE et acquis. Et moi, je pense que dans les comparaisons qu'on fait usuellement entre la ville et le corps humain, on parle des poumons, des artères, du cœur, etc. On n'entend jamais parler de système immunitaire. Et bien, ce système immunitaire de la ville, ce serait cette fameuse infrastructure verte partant de l'eau et du végétal. Alors comment on arrive à la mettre en œuvre cette infrastructure? Parce que c'est un peu une sorte de blockchain, à l'inverse de nos infrastructures qui sont des infrastructures en réseau. Réseau, c'est quand même vachement dangereux, parce que si vous donnez un mauvais coup de godet au mauvais endroit sur un tuyau, c'est tout le réseau qui dysfonctionne. Alors que si vous avez un réseau qui est constitué d'une addition de petites choses qui ensemble forment réseau, ça c'est très résilient. Donc il faut être capable de repérer à l'échelle territoriale toutes les opportunités, un peu comme celle que vous disiez, où on peut infiltrer l'eau de pluie. Et donc aujourd'hui, on est aidé par des lectures algorithmiques des photos aériennes qui sont capables de lire, de détacher chaque pixel de la photo aérienne. C'est 20 cm au sol. Et en fonction de la couleur, on donne un attribut. En fonction des attributs, on sait si la surface est imperméable, végétale, si c'est de la toiture, un enrobé, etc. Et quand on concatène l'ensemble, on est capable de voir quel est le potentiel d'infiltration d'une ville. De façon macro comme de façon micro à la parcelle cadastrale. Et on s'aperçoit à Blois, par exemple, que quand on fait cet exercice-là, 70% de nos tissus urbains sont réversibles, et dont 50% très facilement ou facilement. Alors pour vous donner un chiffre assez éloquent, quand il pleut une pluie d'orage à Blois, tout notre système imperméable soustrait au sol 340 000 m3 d'eau par pluie. Alors 340 000 m3, ça fait beaucoup, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de 7 minutes du débit de la Loire. Donc c'est ça qu'on soustrait à nos sous-sols à chaque fois qu'il pleut. Et ben, en étant capable de réinfiltrer juste les très faciles, les 50%, on réinjecterait 170 000 m3 dans le sol. Donc ça, c'est assez génial. Mais on trouverait aussi, on recenserait tous les endroits où on peut planter. Voilà. Et donc c'est ça qu'il faut aujourd'hui faire, parce que je disais en aparté à Madame l'adjointe que on a un risque quand même quand on fait des conférences, on participe à des colloques, etc. Il y a beaucoup d'invités et chacun vient avec son projet exemplaire. Et dans la journée, on voit qui a traité une cour d'école, qui a fait une rue, un écoquartier, un tramway, un filtrant, etc. Et à la fin de la journée, on peut avoir l'impression, ça y est, on a compris, la France est en marche, on est en train de s'adapter. Mais il faut avoir conscience.
Ou en vélo.
Ou à vélo. Et il faut avoir conscience que l'ensemble des projets quotidiens que conduit une ville, tant sur le domaine privé que sur le domaine public, ne régénère le tissu urbain que de 1% par an. Ce qui veut dire que si on ne pense bâtir nos stratégies d'adaptation au réchauffement climatique en s'hébergeant sur le rythme des autres projets, on est parti pour 100 ans. Et là, il y aura un décalage très net entre le besoin, l'attente et la réponse. Donc il faut que ces stratégies deviennent des politiques en soi, avec leur propre rythme et leur propre budget.
Alors, on va y venir tout de suite. Juste pour nos auditrices et nos auditeurs, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'intelligence nature et qu'est-ce que vous visez comme travaux?
Intelligence nature, c'est un fonds de dotation qui a pour but de produire de la réflexion, d'apporter des réponses concrètes à tous ceux qui se rendent compte qu'on a un problème, qu'il faut réverser notre système urbain et qui se demandent, mais mon Dieu, par où je commence, qu'est-ce que je fais, etc. Donc, c'est nous avons un devoir aujourd'hui, le monde du végétal, quand on prend conscience de l'importance que le végétal va avoir dans le système urbain, on a le devoir, me semble-t-il, de produire de la donnée, de produire des réflexions, d'apporter des solutions à qui a envie de les embrasser.
Voilà. Alors, avant de s'embrasser, en tout cas d'embrasser les sujets, première question à la cantonade. Frédéric Ségur, donc Monsieur Arbre du Grand Lyon, je vais simplifier son titre, qui intervenait tout à l'heure dans une table ronde, disait qu'on n'arrivera pas à adapter la ville au changement climatique si on ne s'intéresse qu'au domaine public.
Ah.
Madame la première adjointe, vous nous disiez que Saint-Ouen est une ville très dense et que vous vous tournez donc vers aussi les acteurs privés pour être un peu plus incitatifs, voire coercitifs, pour qu'ils s'engagent dans cette transition. Et Jean-Marc, vous venez de nous dire à l'instant que le pas de temps d'adaptation traditionnelle des infrastructures urbaines était beaucoup plus long et qu'il y avait même des projets engagés pour les 30 prochaines années qui deviendraient un enfer à vivre dans moins longtemps que cela pour les citoyens si on ne changeait pas tout de suite. Alors, et puis Rami, vous nous avez dit que voilà, c'était public-privé, etc. Sur cette question-là, quel est le foncier, et peut-être Jean-Marc premier pour répondre, et puis vous pouvez enchaîner, quel foncier est disponible et comment faisons-nous, comment fait-on pour le mobiliser ?
Alors, vous touchez du doigt là, une question essentielle, c'est-à-dire que quand on screen une ville avec ces nouveaux outils d'analyse qui donnent des diagnostics inédits, on se rend compte d'abord que dans la répartition spatiale d'une ville, 80% du foncier est privé ou à un usage privatif et seuls 20% à un usage public. Donc vouloir bâtir une stratégie d'adaptation en ne s'intéressant qu'au domaine public, c'est vain. Et en plus, ce domaine public, il est beaucoup plus dur à muter parce qu'il accepte toutes les autres fonctionnalités, la mobilité, le commerce, l'économie, etc. Donc, il faut aller chercher le potentiel des 80% des parcelles privées. Donc, il faut inventer des nouvelles coopérations. Et c'est ça qui est la richesse de notre système urbain qui se dessine. C'est un système de nouvelles coopérations entre la ville et la nature, entre l'intelligence artificielle et l'intelligence naturelle, entre le privé et le public, entre le citoyen et son administration et entre le monde économique et l'écologie. Aujourd'hui, on a un peu rangé facilement le monde de l'économie dans le rôle du pollueur-payeur, enfin celui qui, pour qui il faut le contraindre, mais il y a aussi énormément d'innovation dans le monde du privé. Et puis, de façon très pragmatique, ce monde du privé, il a le foncier. Il a des morceaux importants, des 80% qu'on doit adapter. Donc, il faut absolument renouer le contact entre l'économie et l'écologie d'une façon amicale, comment dire, parce que sinon on se prive tout simplement d'opportunités pour arriver à adapter nos villes.
Alors d'un côté, Madame l'élu et puis Monsieur le designer qui, vous, travaillez avec des opérateurs privés, un groupement d'opérateurs privés qui veut agir sur l'espace public, faire des préconisations, comment est-ce qu'on peut concrétiser cette assertion que Jean-Marc nous a exposée sur, voilà, en gros, 8 espaces sur 10 sont des espaces de maîtrise d'ouvrage plus privés ou des espaces privatifs que purement appartenant à la puissance publique. On met des règles, on les surveille comme le lait sur le feu. Voilà, à vous de... Il n'y a pas forcément de réponse toute faite, hein. C'est pas une question facile.
Non, mais je peux essayer d'apporter en tout cas quelques éléments. Donc, déjà, je partage vraiment ce que vous dites par rapport à la nécessité finalement de bien prendre en compte l'intelligence de la nature. Et pour ça, pour la prendre en compte, il faut beaucoup d'intelligence humaine. Et donc dans ce que vous dites, dans ce que j'en comprends en tout cas, c'est comment est-ce qu'on va embarquer tout un système. Donc vous parliez tout à l'heure du corps humain, mais comment on embarque tout ce système économique, ce système privé, les bailleurs sociaux, les gens, tout simplement les habitants, pour réussir à aller vers un but commun. Aujourd'hui, l'écologie, c'est une préoccupation qui est de plus en plus partagée, mais qui n'a pas non plus conquis forcément les cœurs de tous, ou qui n'est pas forcément la première préoccupation de tout à chacun. Donc comment est-ce qu'on réussit à embarquer tout ce monde-là, les promoteurs, les bailleurs, etc. Donc c'est effectivement une question qui est extrêmement importante et qui est centrale pour pouvoir réussir toute stratégie de transition écologique. Alors, en tant qu'élu, en tout cas, ce que je peux dire par rapport à ça, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est que, effectivement, l'espace public, finalement, on a très peu la main dessus. Ça correspond à un espace qui est très restreint au niveau du territoire. Mais là où on a la main, en tout cas, c'est d'essayer de faire le maximum. Et pour faire le maximum, il faut notamment embarquer les bailleurs sociaux. Pourquoi tout à l'heure je faisais une petite introduction en parlant de Saint-Ouen ? Parce que c'est important de comprendre bien la structure du territoire et la sociologie du territoire également. À Saint-Ouen, on a 37% de logements sociaux. Sur ces 37% de logements sociaux, on a donc une grosse majorité qui appartiennent aux bailleurs sociaux de la ville. Donc, en l'occurrence, nous concernant, il s'agit de la Cémiso. Et donc, ce dont on s'est rendu compte en regardant de plus près où est-ce qu'on allait pouvoir trouver de l'espace à investir pour y mettre plus de nature, c'est que finalement, là où on avait le plus de possibilités, là où on avait le plus de capacités en termes de terre, de terrain, c'était au sein de ces grands ensembles. Mais ces espaces, on ne les voit plus aujourd'hui parce qu'ils sont complètement désinvestis. Sont complètement désinvestis par les gens pour des questions de sécurité, pour des questions de deal, pour des questions de diverses et variées qui font que aujourd'hui on les voit plus comme des espaces de nature tout simplement parce qu'ils sont désinvestis par les gens parce qu'on s'en est pas occupé tout simplement. Donc c'est pourquoi on a réalisé donc un audit sur le foncier de la ville, mais on a réalisé aussi un comité de pilotage avec notre bailleur, avec la ville, pour pouvoir répertorier le foncier disponible à l'intérieur de ces grands ensembles et voir comment est-ce qu'on pouvait réinvestir cet espace public qui avait été complètement délaissé depuis des décennies, même pas des années, mais depuis des décennies. Donc avec pour objectif se réapproprier son espace de vie, extrêmement important, mais également embellir. Des villes comme la nôtre, je pense que c'est... quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le 93. Bon, le 93, j'y suis née. On a été comme on nous a confisqué le beau, la notion d'esthétique. Vivre dans un endroit beau, c'est quand même hyper important. Se sentir bien où on est, se sentir dans un espace naturel, se sentir dans un espace dont on est fier et où on a envie d'inviter sa famille, ses amis. C'est quand même un peu les premiers pas aussi de la dignité, aussi apporter de la dignité aux gens, c'est aussi de leur apporter de la nature et de l'esthétique. Donc en tout cas, c'est vraiment cette vision-là qu'on essaye de porter, et notamment au sein de nos grands ensembles et des terrains qui appartiennent à d'autres bailleurs, notamment.
Alors, il y a deux choses extrêmement intéressantes que vous dites, c'est que déjà ces grands ensembles, ils existent, donc on travaille sur l'existant. On a eu tendance, peut-être moins chez les bailleurs sociaux, mais en tout cas beaucoup de promoteurs privés, et c'était aussi une demande citoyenne, à fermer les îlots et à tourner le dos à la rue. On voit que maintenant un certain nombre d'élus demandent à les ouvrir, mais quand on travaille sur l'existant, il y a effectivement un gisement de foncier assez significatif. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas dans une création nouvelle, et on a un changement, et on va y venir avec Rami sur comment embarquer, en fait. Valor, l'interprofession en parle souvent, on a cette fameuse perte des expériences de nature, c'est-à-dire qu'on peut vivre à proximité d'un espace vert, mais on n'a plus de contact sensible. Et lorsqu'on nous donne la possibilité, à titre citoyen, de nous approprier un pied d'arbre, on est un peu démuni. Et nous croyons fortement, j'emploie le « nous » collectif, les professionnels et puis aussi un certain nombre d'animateurs nature, que la médiation, le fait de prendre par la main et de montrer, c'est une démarche intéressante, et je pense que ça, c'est un facteur clé de succès, et ça rejoint la démarche du designer. Mais je veux simplement, et ça c'est un avis, je sors de la casquette pure d'animateur, sur l'esthétique, je le partage totalement. Je suis né dans un département rural, le département de la Loire, où on a connu un mitage dans une grande plaine, et avec une esthétique qui était complètement absente. Pour le coup, c'était un moyen de sécuriser un petit pécule pour un certain nombre d'agriculteurs en vendant des parcelles pour faire ce qu'on appelle des boîtes à chaussures. Et je pense profondément que même si ça n'a jamais été verbalisé dans les contestations sociales, notamment les gilets jaunes qui étaient plus dans les franges, dans les périphéries que dans les centres urbains, l'absence de considération de l'esthétique est un vrai motif de non-fierté et de potentielle dislocation du lien social. Donc merci de l'avoir dit, parce que c'est aussi une préoccupation des paysagistes que de faire des choses utiles, mais aussi d'avoir un certain sens du beau. Rami, on veut embarquer les citoyens à s'approprier les lieux. Vous travaillez en tant que designer sur ces dimensions-là. Quelles peuvent être les clés pour qu'on se réapproprie, ou pour ceux qui sont nés depuis qu'on a tourné le dos à ces cœurs d'îlots ou aux espaces qui ont été pris pour les parkings? Comment est-ce qu'on peut guider tout ça et associer le citoyen dans la démarche?
Après, le citoyen, on en est tous. Je veux dire, on travaille toute la journée. Les citoyens, il faut aussi parfois pas lui demander de prendre toutes les responsabilités. Mais vous avez dit quelque chose qui, je pense, est très intéressant sur la question de la beauté. Souvent, aujourd'hui, la dimension du beau, du désirable, elle est partie du côté du divertissement. C'est anecdotique, c'est puéril, enfin, c'est pas sérieux. En fait, c'est ça qui a fait que pendant, je pense, un demi-siècle, la beauté n'a pas été souvent, je dirais, mise en avant. Ou alors, elle, je dirais, l'embarquait des imaginaires qui sont obsolètes. Et on n'en a pas, en tout cas, créé de nouveaux. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des grandes tours, des grands complexes, des grands objets. Tout était toujours très grand et finalement très imposant, très monumental. La question, c'est de définir ce que veut dire beau au XXIe siècle. Pour une génération de vingtenaires, qu'est-ce que veut dire beau ? Alors, évidemment, une certaine catégorie et une grande partie des gens vont être attirés encore par ce qui les a fait rêver enfant, etc. Et puis, il y a le besoin aujourd'hui de recréer une identité à la beauté de demain. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, par exemple sur les terrasses, mais je travaille aussi sur beaucoup d'immeubles, j'essaie d'éviter d'arriver trop vite à la question de l'esthétique. Parce que si tout de suite on parle du beau, c'est quelque chose de subjectif, on peut aimer ou pas. Alors que si on décide qu'aujourd'hui les ingrédients ne sont plus ceux d'Haussmann, mais pour être un peu caricatural et de dire aujourd'hui le beau c'est forcément vivre dans une ville plus végétalisé, plus local, avec des commerçants locaux, et qu'on redéfinit les règles de ce que les gens aiment ou trouveraient beau ou rêveraient de vivre, eh bien, je pense que ça devrait devenir des nouvelles règles, je dirais, esthétiques, qui n'ont rien à voir avec un style ou une couleur, mais finalement des nouvelles guidelines qui permettraient à chacun de définir ce que la beauté finale, l'esthétique voudrait dire, mais sur des bases communes. Et qui, à mon avis, au final, devrait imposer des règles aux constructeurs, aux bâtisseurs, qui aujourd'hui n'existent pas. Aujourd'hui, on construit encore de façon très pragmatique des logements. Tout le monde s'accorde à dire qu'ils sont devenus de plus en plus petits, de moins en moins agréables. Mmh. Et des bureaux où tout le monde s'accorde à dire qu'il y en a beaucoup trop et que plus personne ne les veut. Et qu'il y a beaucoup d'immeubles vides, même dans les plus petites villes de province. Cette aberration-là doit s'arrêter et évidemment, à un moment, il faut redonner des règles. Et c'est vrai que c'est pas ni les concepteurs ni les créateurs qui peuvent les imposer aujourd'hui. Nous, on peut amener des réponses aux côtés des constructeurs et des bâtisseurs qui, dans ces nouvelles règles, doivent chercher des alternatives.
Et puis, vous parlez là de conception, de phase amont. Et évidemment, lorsqu'on parle du vivant, il y a l'aval, la gestion et... On a souvent coutume de dire dans nos métiers que lorsque le maçon livre un ouvrage, eh bien, il a quelque chose qui est fini, alors que le jardinier plante un potentiel qui doit se révéler et doit être entretenu, en tous les cas géré en interaction. Et ça, c'est encore un autre sujet. Un petit dernier mot de Jean-Marc avant la conclusion.
Juste sur ce point-là. À chaque fois qu'on parle de solutions végétales, les gens nous opposent. Oui, mais tout ça va coûter cher à l'entretien, etc. Il faut savoir que les solutions végétales, les solutions naturelles, leur pérennité, etc., coûtent toujours moins cher que les solutions minérales. Un mètre carré de ville coûte 150 euros. Un mètre carré d'espace vert en ville coûte entre 40 et 70 euros. Et quant à la valeur du maçon, vous savez que dans les comptes d'exploitation de qui est propriétaire d'un immeuble, du jour où l'immeuble est livré, il va l'amortir, c'est-à-dire qu'il va déprécier la valeur sur une durée de vie théorique de l'immeuble. La nature infrastructure, c'est vous la plantez jeune et elle va prendre de la valeur pendant toute sa vie. Pendant les 100 prochaines années, l'arbre que vous avez acheté 100 euros va vouloir 1000, 5000, 20 000, 100 000, etc. Donc c'est une infrastructure qui prend de la valeur. Il faut aussi avoir cette économie-là en tête.
Absolument, et faisons référence notamment à l'étude de l'Agence régionale de la biodiversité, ex Nature Paris, qui avait montré assez récemment qu'une noue paysagère par rapport à du tout tuyau coûtait jusqu'à 10 fois moins cher.
Bien sûr.
Voilà. Alors on aurait pu aborder plein d'autres sujets. Vous avez parlé de la stimulation économique pour les opérateurs privés. On peut s'interroger sur l'impact de tout cela sur la gentrification et en même temps le fait de redonner de la valeur à certains centres-villes qui sont délaissés au profit d'un étalement urbain. Nous n'en avons pas le temps, mais ça nous donne un prétexte pour faire à nouveau une émission. Merci à toutes et à tous. Merci Sabrina De Canton. Je rappelle
merci à vous.
Vous êtes première adjointe au maire de Saint-Ouen, en charge entre autres de la transition écologique, de la nature en ville et des mobilités. Rami Fischler, designer, créateur de RF Studio, et ça recrute chez RF Studio, je crois. Voilà, suivez les réseaux sociaux. Et puis enfin, Jean-Marc Bouillon, Takaé Conseil et président fondateur du fonds de dotation Intelligence Nature. Donc, allez vous renseigner sur ce sujet pour créer un avenir fertile qu'on a plutôt dessiné entre des choses qui, a priori, n'avaient pas grand-chose à voir entre elles. Cette émission a été réalisée grâce à l'intervention de Valor, avec le soutien de la Commission européenne, dans le cadre du programme Cité Verte Europe. Et pour les réseaux sociaux, suivez le hashtag Ville Nature tout attaché. À très bientôt à toutes et à tous.
Merci.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.